Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Docteur Yasmine Liénard, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions d'Ile Jacob un livre absolument passionnant. C'est votre troisième livre. Alors, vous êtes médecin psychiatre, ancienne chef de clinique de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, et puis auteur donc chez Odile Jacob de deux autres livres, À la recherche de son vrai soi et Pour une sagesse moderne. Aujourd'hui, nous allons parler de guérir des blessures de son enfance. Donc, ça paraît chez Odile Jacob. Alors, le titre, les blessures de l'enfance, est-ce qu'elles sont essentielles? Est-ce que ces blessures-là nous ont lacéré l'âme pour le restant de nos vies? Si nous avons des blessures plus tard, elles ne sont peut-être pas aussi fondatrices que ces blessures de l'enfance, dans l'enfance.
Oui, en fait, il se trouve que l'enfance, c'est une période cruciale de maturation du cerveau et de la vie affective et de la vie relationnelle, et que on pense qu'à peu près vers l'âge de 8-12 ans, on a fini de construire ses schémas, ses croyances, son mode relationnel, son estime de soi, ses modes d'attachement aussi. Voilà, donc c'est effectivement, si des traumas ou des choses difficiles surviennent dans cette période de l'âge de 0 à 12 ans, elles auront probablement un impact plus durable que des événements traumatiques qui surviendront plus tard, même si bien sûr, ce qui survient plus tard aussi, a aussi un impact. Mais cette période est encore plus fragile parce que elle a, voilà, quand il se passe quelque chose, c'est non seulement il y a un événement grave stressant, en soi, bon, ça peut engendrer de la peur, mais c'est aussi une grille de lecture qui va se faire pour l'enfant de lui-même et de sa relation aux autres. Donc ça va impacter ses fondements, en fait, ses fondations.
Alors, dans cet essai, vous dites, je vous cite, vous dites, dans cet essai, je vous guide à travers un voyage de guérison et de transformation. En tant que psychiatre, je vous invite à plonger dans les profondeurs de votre être et puis vous ajoutez comment les blessures non résolues de notre enfance peuvent se manifester sous forme de violence, d'agression et de conflits. Et puis vous nous donnez des outils pratiques et des conseils avisés pour entamer un processus de guérison émotionnelle. Alors, il y a une préface très, très, très touchante, celle de Tan Nguyen, et elle dit que votre livre marque un tournant dans sa vie et ça lui a permis de sortir d'addiction envahissante, 22 ans d'addiction sévère, boulimie à l'alcool. Pourtant, c'était une femme brillante, et c'est toujours une femme brillante qui avait du pouvoir, qui avait de la visibilité socialement, qui a essayé plusieurs d'autres alternatives pour se sortir de cette cascade d'addiction. Elle a créé des associations, elle a essayé du sport violent, et puis un jour, elle a rencontré vous, docteur Yasmine Liénard. Racontez-nous comment vous l'avez rencontrée et comment elle a évolué. Elle est ravie, elle dit que là, maintenant, elle est guérie.
Alors, en fait, c'est la rencontre avec Tan. Elle m'a sollicité pour des conseils parce que voilà, elle n'arrivait pas à se sortir de difficultés d'addiction par mail. Et puis moi, à cette période-là, je ne pouvais pas, je ne recevais pas en privé. Je travaillais à plein temps à l'hôpital. Et je lui disais que je ne pouvais pas l'aider. Elle avait insisté et j'ai regardé son parcours. Je suis allée voir sur Internet et j'ai vu ses TEDx, ce qu'elle faisait, le manifeste des crapauds fous, ce qu'elle a créé avec Cédric Villani, avec beaucoup de gens, vraiment pour parler de cette notion de crapauds fous, c'est-à-dire ces personnes qui sont vraiment atypiques mais qui ouvrent de nouveaux chemins dans la société. Elle a... Je trouvais son parcours extraordinaire. C'est une femme qui a fait des hautes études et qui a été chez McKinsey, voilà. Et je me disais, c'est quelle tristesse, une femme engagée même sur le plan humanitaire, des ONG, etc., souffre autant. Et je pouvais pas à ce moment-là la suivre. Et elle avait lu mes livres, voilà, elle connaissait mon nom. Et bon, je me suis dit, bon, je vais pas pouvoir être psychiatre qui va l'aider, mais je lui ai proposé de passer quelques jours avec moi à Sarlat, dans ma vie personnelle. Comme ça, j'ai eu une espèce d'intuition, d'idée que voilà, je me suis dit, je peux faire que ça et passer quelques jours ensemble, et on va voir s'il n'y a pas des traumas, parce que je me suis dit, ça ressemble à quelqu'un qui aurait vécu des traumatismes lourds et qui, en fait, c'est pour ça qu'elle s'en sort pas malgré son intelligence. Et puis j'ai trouvé des pistes avec elle. On a commencé un petit peu à ouvrir ce champ-là. Et puis après, elle a continué son chemin, puisque voilà, moi je ne l'ai pas suivie. Mais c'est devenu une amie, surtout quand elle est venue, on a parlé de mon livre à ce moment-là et de ce que je voulais transmettre et des outils. Et j'ai appliqué sur elle certains outils dont je parle dans le livre. Et je lui ai dit, voilà, je pense que il y a des choses qui sont engrammées, des mémoires et des empreintes depuis ton enfance, et des choses graves. Et l'addiction est le symptôme résiduel de ces empreintes. Et voilà, elle a fait son chemin. Et effectivement, bon, pour elle, ça a été une grande transformation. Et je crois que voilà, c'est un peu le message qu'elle veut faire passer, c'est que parfois, on passe à côté du nœud du problème. Voilà.
Alors, ça se lit tout à fait. Je suis en droit fil avec ce que j'ai compris. Et alors, vous, l'auteur, Dr Yasmine Lienhardt, est-ce que je prononce bien votre nom, Lienhardt, oui, ou Lienhardt?
Lienhardt.
Ah ben voilà, l'intuition était bonne. Alors vous vous appuyez sur les neurosciences et la psychologie cognitive et vous placez la méditation au cœur de votre processus thérapeutique. Prendre soin de soi et de ses émotions participe d'un vaste mouvement pour l'amélioration de la société. Donc, en perspective, il y a le fait d'apporter une sorte de thérapie à la violence qui se déchaîne dans la société, dans le monde. Alors, un mot sur cette méditation, c'est quoi exactement ?
Alors oui, donc effectivement, vous avez parlé de la méditation et je vais expliquer vraiment quel lien ça peut avoir avec tout le reste et comment on parle de méditation, de violence, de trauma et de société, quel est le lien entre tout ça. Donc déjà, pour commencer par la méditation, c'est que très souvent, bon, moi ça fait vraiment des années que je pratique et des années que j'enseigne la méditation dite de pleine conscience pour des patients psychiatriques. Et c'est parfois, effectivement, c'est transmis comme quelque chose qui serait apaisant pour le bien-être, etc. Et je me suis dit, voilà, j'ai voulu expliquer en quoi la méditation est une pratique de transformation du cerveau, vraiment, pas seulement du point de vue neurobiologique, mais au point de vue des processus d'attention. Et donc, j'ai détaillé, effectivement, que les pratiques de méditation de pleine conscience, qui sont laïques, sont des entraînements de l'esprit pour sortir de notre mode automatique de fonctionnement. Et quand on parle de trauma, c'est que souvent, les séquelles, c'est des modes automatiques de fonctionnement, ce qu'on appelle des schémas répétitifs. Et la méditation va être la première étape pour s'arrêter, regarder, voir ces automatismes, par exemple ces impulsions, l'envie par exemple de fumer, de boire, etc. Et on va apprendre à prendre un temps d'arrêt, un temps de recul déjà, pour voir les processus et sans désengager et sans libérer. Donc c'est une étape pour moi essentielle et fondamentale quand on veut changer le cours de sa vie, enfin en tout cas ce qui se répète, quoi.
Alors, donc, la méditation est à la source pour faire ce travail intérieur, c'est-à-dire, j'ai décodé personnellement, renouer avec notre être authentique que cet être que nous sommes, dont nous avons l'intuition, encore une fois, il faut parler de cette intuition, que cet être que, dont nous avons l'intuition, qui est le cœur de notre conscience, de nous-mêmes, que notre être ne soit ni asservi par nos fonctions sociales. Lorsque nous travaillons, nous avons des masques, un masque chacun, nos masques sociaux pour nous faire adopter par le groupe. Nous sommes aussi, il y a le servage, lorsque nous sommes asservis par l'ambition, la cupidité, la jalousie, faire comme l'autre, le cloner, le copier. Et donc, ce temps où l'on désenclenche l'inertie de notre être répétitif, et c'est la méditation, c'est comme si on se mettait au point mort, la voiture on l'arrête, et puis comment pratiquement est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés pour ceux qui, bien sûr, beaucoup liront votre livre, et ceux qui écouteront simplement cette interview, est-ce qu'on peut donner des clés, des aides? C'est quoi cette méditation? Ça m'intéresse beaucoup.
Alors, oui, tout à fait. Alors, au début, surtout, il y a des personnes qui sont réfractaires à la méditation. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, justement, toutes les freins et les blocages qu'on a à pratiquer ça. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. C'est-à-dire que donc j'ai accompagné, évidemment, beaucoup de patients et beaucoup de gens qui pouvaient être réfractaires. Et j'ai fait beaucoup de groupes et j'ai vu peu de gens véritablement méditer tous les jours, régulièrement, 20 minutes, une demi-heure par jour, parce qu'il y a plein d'obstacles et plein de freins. Et donc, quand on veut commencer à méditer, je crois que c'est intéressant de considérer la méditation comme une espèce de zoom sur tout ce qui nous empêche de nous arrêter et nous écouter. Donc déjà, ça, c'est une pratique de méditation. C'est-à-dire, quand je veux, par exemple, on va dire, je vais faire 5 minutes de pleine conscience qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à le caser dans ma journée? Qu'est-ce qui fait que donc c'est souvent parce qu'on a l'impression qu'il faut faire beaucoup de choses, parce qu'on a plein de d'angoisses, de choses à réaliser, remplir sa feuille d'impôt par exemple, nous paraît plus important que nous asseoir et méditer. Mais donc tous ces obstacles, déjà voir pourquoi je suis tout le temps dans le faire et qu'est-ce qui est difficile. Et puis aussi donc quand on déjà voir les obstacles, puis après commencer à faire des petites pratiques. Par exemple, on peut faire 5 minutes, un tout petit exercice, qui peut même être 3 minutes, de s'arrêter dans sa journée et de s'interroger sur sa propre expérience dans le moment présent. Ça peut être qu'est-ce que je ressens là maintenant, donc vous pouvez le faire en même temps que je vous le dis, dans mon corps, ça. Donc tout simplement là maintenant, quelles sont mes sensations corporelles, donc ça peut être là j'ai soif, là j'ai faim, là j'ai une douleur, là j'ai une tension dans la nuque, vous voyez, les gens s'arrêtent, donc le corps, ensuite l'émotion, quel est mon état émotionnel maintenant, vous voyez, ça peut être tout simplement s'interroger ici maintenant, est-ce que je suis triste, est-ce que j'ai peur, et souvent on ne le fait pas, on ne prend pas le temps d'être en contact de sa vie émotionnelle. Et la troisième chose, c'est les pensées. Donc on a dit le corps, les émotions, et puis là maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Quelles sont mes pensées? À quoi je pense? Est-ce que j'ai une obsession, un souci? Ou est-ce que je pense à quelqu'un? Ou est-ce que j'ai des images qui viennent comme ça? Donc cette première invitation, c'est de se poser et de regarder sa propre expérience comme ça. Et puis après, on peut prolonger en portant attention à sa respiration. Souvent, on pense que porter attention à la respiration dans la méditation, c'est pour se détendre. Et en fait, dans la méditation de pleine conscience, c'est pas pour se détendre. C'est on met notre attention, par exemple, sur le nez. On va observer inspiration, expiration. Et en fait, c'est s'il y a des pensées qui vont venir, je ne vais pas les suivre. Je ramène l'attention sur la respiration. C'est ce mouvement, en fait, qui est le plus important dans la méditation. Ce n'est pas de se détendre, c'est d'être capable de poser son attention là où on le souhaite, en fait. Or, souvent, notre mental, il nous entraîne et on n'a plus la main. C'est pour ça que dans la dépression, on rumine et on n'arrive plus à sortir du mental. On est complètement pris, happé par le mental qui nous a pris et qui nous a emmenés. Et l'entraînement de revenir sur ma respiration, encore et encore, même si j'ai plein de pensées, c'est extrêmement transformateur en soi, puisque ça nous aide déjà à sortir de ce pilotage automatique. Donc voilà, ça c'est tout simple, ce que j'ai dit, cet exercice corps, émotion, pensée, et puis amener l'attention sur le souffle. Ça peut être une pratique de 5 minutes, 10 minutes par jour, mais c'est déjà beaucoup.
Vous avez dit quelque part qu'on guérit par le corps, pas forcément par la tête.
Oui. En fait, c'est des études scientifiques qui disent ça, c'est pas... Ça peut paraître surprenant, en fait. Et c'est pour ça que je le dis aussi simplement, parce que on est dans une société qui n'a pas forcément un rapport au corps de confiance, en fait. On veut manipuler notre corps, on veut qu'il soit beau, on veut qu'il soit musclé, on veut qu'il soit jeune, voilà. Mais l'écoute du corps et la confiance, en fait, que le corps a une très profonde sagesse pour réguler, c'est pas évident. Donc j'ai voulu insister là-dessus. Et aussi parce qu'en psychiatrie ou en psychologie, souvent on pense qu'il faut parler pour régler ses problèmes. Et on s'est rendu compte scientifiquement que les zones qui sont impactées quand il y a des troubles psychiatriques, ce sont les zones du cerveau plus archaïques et la zone limbique de la mémoire et des émotions. Et cette zone-là n'est pas accessible pour être transformée par le cerveau intellectuel qu'on dit préfrontal. C'est-à-dire que discuter, réfléchir ne va pas aider à transformer mes réactions émotionnelles. Et on le sait, parce que c'est pour ça qu'il y a des gens très intelligents, des gens brillants qui ont réussi et qui vont avoir des zones de leur vie où ils sont complètement stupides, ils font des choses complètement impulsives, stupides, ou avoir des addictions, etc. Et ils disent, mais pourtant, ils sont intelligents. Et nous-mêmes, ça peut nous arriver de dire, mais j'ai un problème, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui fume, dit, mais je fume, je sais que c'est pas bon pour ma santé, mais j'arrive pas à m'en empêcher. Et en fait, on s'est rendu compte que pour accéder à cette zone du cerveau et la transformer, donc le cortex préfrontal n'était pas très efficace, il fallait passer par ce qu'on appelle les voies ascendantes, c'était dans le corps, et remonter, donc on dit bottom-up, ces approches corporelles qui vont petit à petit modifier cette zone du cerveau. Et donc, c'est par des mouvements, plusieurs choses, en fait. C'est ce que je détaille un peu dans le livre, c'est quels sont les outils qu'on a, et ils passent par le corps. On s'est rendu compte maintenant que, pour soigner l'esprit, c'est les approches psychocorporelles qui vont être les plus intéressantes.
Est-ce que nos émotions seraient la charnière entre le corps et l'esprit?
Tout à fait. En fait, les émotions... évidemment, on a souvent scindé le corps et l'esprit, et puis Descartes, la pensée, c'est la rationalité, les émotions, c'est le chaos. On peut pas être objectif quand on est dans nos émotions, donc il faut, pour être objectif et intelligent, il faut privilégier le raisonnement logique. Mais en fait, les émotions, elles sont justement à charnière, puisque l'émotion elle-même, le mot émotion regroupe des choses très complexes, en fait. Si je vous dis de définir ce que c'est qu'une émotion, vous verrez que la plupart des gens vont dire des choses très différentes. Vous allez dire, quand je suis en colère, par exemple, c'est quoi l'émotion colère? On va dire, l'émotion colère, je suis en colère parce que mon comportement, ça peut être je casse une assiette, je jette tout par terre. Ça peut être des sensations corporelles, la mâchoire crispée, etc. Ça peut être des pensées. Par exemple, on me prend pour un imbécile. Vous voyez. Et en fait, l'émotion, c'est un processus qui englobe un peu tout ça, en fait. Et c'est une espèce de... quand vous disiez de charnière, oui, j'arrive pas à trouver un autre nom, mais qui englobe à la fois l'esprit et le corps, et c'est ça, en fait, c'est ce processus qui va être à l'origine de l'émotion et le comportement, en fait. Il y a la pensée, le comportement, les ressentis corporels.
Alors, il y a quelques explications que j'aimerais bien voir lorsque vous parlez de santé mentale. Qu'est-ce que serait la définition de cet état de grâce de santé mentale? Il y a aussi des mots comme décompensation, des mots comme stress post-traumatique, tous ces noms, tous ces mots qui émaillent le discours des sachants au niveau neurosciences et qu'il serait bon de débugger, puisque quand on ne comprend pas un mot, on est sidéré, il y a une sidération, je ne comprends pas. Alors, dissociation aussi, par exemple, moi j'ai vu une femme perdre son mari et rester, mais calme comme une mer d'huile. Et c'était un peu dissonant par rapport au bruit que faisaient les autres qui étaient plus lointains au niveau de la filiation, du rapport. Et alors, dissociation, expliquez-nous tous ces mots. Alors, je recommence par santé mentale, un état de grâce.
Alors, dans mon livre, j'ai repris la définition de la santé mentale. Je me suis posé cette question, effectivement, aussi, hein, parce qu'on parle beaucoup de pathologie mentale, mais en fait, déjà, il faudrait définir ce que c'est qu'aller bien. Donc, j'ai repris la définition de l'Organisation mondiale de la santé, parce que... Et en fait, je ne la connais pas par cœur, je l'ai mise en ligne, je ne sais pas. Mais moi, ce qu'on retient, c'est que la santé mentale, c'est un bon fonctionnement dans divers domaines de sa vie sociale, professionnelle. En fait, c'est un état d'équilibre dans lequel on a l'impression d'avoir sa place, sa juste place dans la société ou dans avec la communauté, vous voyez. Et c'est important de comprendre ça parce que donc la définition de l'OMS, c'est la santé mentale et un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être d'un individu. Et voilà. Donc c'est assez vague. Je me suis dit cette définition qui est de bien fonctionner autour de soi, dans son travail. Mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas l'idée qu'il faudrait être calme ou joyeux ou détendu. Vous voyez donc cette définition qui paraît toute simple, elle est assez profonde et elle nous permet de comprendre que une bonne santé mentale n'est pas une norme qu'on voudrait appliquer aux individus ou un état de bien-être intérieur ou un état de joie ou de paix intérieure. Vous voyez c'est pour ça que j'ai voulu redéfinir. Et il y a un mot qui est surmonter les tensions normales de la vie. C'est un point très important aussi, puisqu'aujourd'hui, la psychologie, dont je parle dans mon livre, c'est que on commence à se rendre compte que finalement le problème la plupart des troubles psychiatriques et psychologiques ont en commun la dérégulation des émotions. C'est-à-dire que ce serait la difficulté à gérer ces émotions qui serait le nœud du problème dans quasiment tous les troubles. Donc c'est pour ça que j'ai remis cette définition de l'OMS et je trouvais ça intéressant parce qu'elle dit l'essentiel et que finalement en partant de cette définition de la santé mentale, on peut revoir presque toute la psychiatrie, puisque finalement, qu'est-ce qu'on veut? C'est que tout le monde et nos patients qui nous consultent soient finalement en bonne santé mentale, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'anxiété, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de peur, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas différent ou atypique, vous voyez. Alors que jusque-là, on peut se demander si la psychiatrie n'est pas au service d'une forme de normalisation, il faudrait, et puis de culture du bien-être et du bonheur. Voilà. Donc j'ai voulu reparler de cette notion de santé mentale. Donc la santé mentale, c'est son sentir bien intégré et bien gérer ses émotions, quelles qu'elles soient. Voilà. Et d'arriver à les surmonter pour continuer à avoir une vie qui a du sens, en fait.
Ensuite, une question, donc la décompensation. Voilà. C'est quoi?
Eh bien, en fait. Décompenser, c'est quand on a un état d'équilibre, puis tout d'un coup, on présente un trouble qu'on n'avait jamais exprimé. Par exemple, on parle donc de décompensation psychotique ou une décompensation d'un trouble bipolaire. C'est l'idée qu'on peut tout à fait bien fonctionner. Et puis, à un moment donné, il y a une bouffée délirante ou il y a une dépression sévère ou un trouble qui va se manifester. C'est important cette notion de décompensation. On décompense un état d'équilibre qui fonctionne. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait bien fonctionner et avoir en soi des germes d'une fragilité future qui peut s'exprimer. Et puis à l'inverse, on peut être très mal. Et puis la crise peut passer, on peut retrouver un état d'équilibre. Donc j'avais besoin de dire ça parce que c'est dans la chronologie de la souffrance pour comprendre que la vie est émaillée de plein de moments et de crises. Et il y a des gens, je parle du Covid, moi j'ai vu arriver en psychiatrie des patients qui n'avaient jamais eu aucun trouble psychiatrique et qui se sont retrouvés à 50 ans avec des bouffées délirantes ou des hallucinations parce que le contexte de stress et ça a fait décompenser la personne dans son équilibre quotidien. Et du coup elle a manifesté des troubles. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas revenir à un état d'équilibre. Et je dis ça parce que parfois, quand on pense que c'est à vie et qu'on est malade et qu'on ne pourra jamais... Mais voilà, dans les deux sens, quoi. Ça peut se compenser et se rééquilibrer.
C'est-à-dire que, d'une façon générale, on arrive à garder le pouvoir sur les événements que nous traversons, nous compensons avec nous pouvons, voilà. Et puis, il y a des moments où des drames arrivent qui nous bousculent et déséquilibrent. On a plus toutes ces mains que nous posions sur nos différents événements et avec lesquelles nous tenions en nos chiens tranquilles. Alors là, il y a le déferlement d'un événement, on est à terre, on ne peut plus continuer à maîtriser notre royaume, quoi.
Ah, c'est ça, et souvent, par exemple, le burn-out, c'est un exemple typique de personnes qui, à un moment, ça tenait, et puis à un moment, ils ne peuvent plus, et l'équipe se et souvent, ça arrive, enfin, c'est pas tout le temps, mais il y a souvent des facteurs antérieurs au burn-out qui étaient là et qui n'ont pas été vus ou traités et qui ont été compensés, justement. Et là, du harcèlement moral, des tensions au travail, un surmenage peut faire que la personne va plonger dans sa détresse qu'elle avait jusque-là très bien mise de côté. Donc il y a des stratégies de compensation et d'évitement qui marchent, mais à un moment donné, parfois, un divorce, des problèmes...
Docteur Yasmine Lénard, juste une dernière question, puisqu'on a évoqué cette idée de dissociation. Mmh. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer ce concept?
Alors ça, c'est un point très important aussi dans l'ouvrage, et ça rejoint le sujet dont on vient de parler de décompensation. Mmh. C'est que, en fait, pourquoi on compense bien parfois, on compense bien parce qu'on a bien pris conscience de sa souffrance et on l'a bien vue et puis on arrive à s'y adapter. Mais parfois, on compense bien parce qu'on se dissocie de la souffrance et que justement, on est en surface, c'est-à-dire en évitement. Je donne un exemple. Je vais déjà expliquer ce que c'est que la dissociation. C'est-à-dire que quand il y a un épisode traumatique, un événement traumatique aigu, un gros stress, pour survivre, notre cerveau a une stratégie qui est se dissocier, se couper du corps, se couper des sensations et des émotions pour survivre. Donc, ça peut être effectivement assez spectaculaire, puisque c'est ce qu'on voit... C'est ce qui explique le syndrome de Stockholm, où on peut voir une personne victime d'un attentat ou d'un braquage tombée amoureuse des braqueurs et des terroristes. On voit ça aussi, parfois les victimes d'attentats qu'on voit juste après un attentat ou quelque chose de très violent, ont presque sont détachées, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ou même voir rigoler ou sourire. C'était à Algérie, je crois, où les victimes là, qui étaient prises en otage dans l'avion, avec les terroristes, se prenaient en selfie, en photo, en rigolant, etc. Ça, c'est un exemple de dissociation. C'est-à-dire, je ne suis plus en contact avec la panique, la terreur, et je suis dans une espèce de bulle euphorique. Et cet état dissociatif, il peut perdurer après les événements traumatiques et donner même des épisodes dissociatifs où les personnes sont un peu détachées comme spectatrices du monde extérieur. Elles sont un peu comme shootées et elles ne ressentent même plus leur corps. Donc on a aussi par exemple des victimes d'abus sexuels qui vont avoir, avoir des activités sexuelles très violentes et ne rien ressentir, dire « moi je sens rien » ou même se scarifier, se faire plein de choses, on a l'impression qu'il n'y a plus de ressenti de la douleur. Et ça peut être un élément de la dissociation. Il y a plein de symptômes de la dissociation. Et donc, c'est bien, c'est une stratégie de survie, sauf que la personne, elle est complètement coupée d'elle-même et elle n'est pas en rapport avec ses besoins. Donc, elle peut boire beaucoup plus qu'il ne faut et se détruire la santé. Elle peut se mettre en danger, etc. Ou même s'exposer médiatiquement, par exemple, et avoir l'air de bien fonctionner, mais en fait, ne pas avoir traité ses problèmes de fond. Voilà, donc la dissociation, c'est une stratégie de survie, mais qui en fait fait qu'après, les personnes sont en compensation permanente, sont dans une espèce de faux soi, de faux self, très instable, et puis pas en contact avec leurs besoins réels ou qui elles sont.
Docteur Yasmine Lienard, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications vraiment très, très précieuses autour du livre que vous venez de faire paraître aux éditions d'Ile Jacob et dont le titre est « Guérir des blessures de son enfance ». Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre, ancienne chef de clinique de l'hôpital Sainte-Anne à Paris et que vous êtes auteur, à part ce livre dont nous avons parlé, d'autres livres, je cite, « À la recherche de son vrai soi et pour une sagesse moderne ». Merci infiniment et au plaisir de vous relire une autre fois. Merci.
Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Strasbourg Pilote. Arts et Lettres. Le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Ah.